Bienvenue sur Néo Travail, le podcast écoféministe qui explore le futur du travail. Nous sommes Hélène et Laetitia, et ici, nous questionnons l'impact du travail sur nos vies.
Nous explorons de nouvelles façons de travailler et de lutter grâce à des femmes engagées. Nous donnons la parole à celles qui refusent notre système patriarcal, consumériste et capitaliste.
Pour prendre soin du vivant, le futur du travail doit être écoféministe. Car tout est lié, tout est politique, tout est sensible, le travail aussi.
Il est possible de travailler différemment et certaines le font déjà. Bonne écoute!
Avec Néo Travail, on s'interroge sur le travail de demain et l'impact qu'il aura sur nos sociétés et sur nous aussi en tant qu'individus. Le futur du travail, c'est un vaste domaine qui englobe de nombreuses thématiques et de plus en plus de personnes s'interrogent sur ces questions-là et tentent d'y apporter des réponses. On est hyper contente d'échanger aujourd'hui avec Laetitia Vito, qui est experte du futur du travail. Elle est aussi pionnière dans ce domaine puisqu'elle a quasiment créé et révélé cette discipline. Donc à distance, entre la France où nous sommes et l'Allemagne où Laetitia Vito habite, nous avons parlé de passion économie, de nouveaux médias, de quête de sens et aussi de la place des femmes dans le futur du travail. Allez, c'est parti, bonne écoute!
Bonjour Laetitia, on est ravis de vous accueillir dans ce podcast.
Ravie d'être là, bonjour Laetitia et Hélène.
On va parler dans cet épisode de plusieurs thématiques, de votre métier de spécialiste du futur du travail. On va parler de la place des femmes dans l'avènement des métiers de demain, de ce futur du travail, et on va parler de sens aussi. Et on avait envie de vous poser une première question, quel est votre métier ?
Le terme de métier est un terme qui, pour moi, est assez dépassé parce que ça correspond à une définition bien prête, une forme de bundle, de package, de tâches qui sont regroupées dans quelque chose qui est bien connu, qu'on peut apprendre, auquel on peut se préparer. Par exemple, vous êtes médecin, il y a une formation particulière, il y a une validation des acquis et puis vous rentrez dans un corps de métier où les gens partagent des choses en commun. Et donc, un métier, c'est quelque chose qui correspond, et c'est encore vrai pour beaucoup de gens, à quelque chose qui est défini en dehors de vous. Or, moi, ce n'est pas un métier, puisque c'est moi qui ai assemblé par moi-même les différentes tâches. Donc, je suis travailleuse indépendante, j'ai inventé mon sujet de spécialisation. Il n'existe pas de formation future du travail, il n'existe pas d'autres personnes qui feraient la même chose que moi, de la même manière. Et donc, plus qu'un métier, c'est plutôt une activité que j'ai inventée, que j'ai composée par moi-même, et une entreprise, du coup, que j'ai créée, qui correspond à moi et à ce que j'ai envie de faire. Et voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, mais du coup, ce n'est pas exactement un métier. Et c'est peut-être intéressant, justement, de voir que entre les métiers et puis les gens qui inventent leur manière de travailler, on a vraiment deux visions du travail, deux visions d'une activité qui sont différentes et qui vont cohabiter parce que, encore une fois, un plombier, c'est peut-être plus un métier au sens traditionnel du terme, et puis un médecin aussi, et puis il y en a d'autres comme ça. Et puis, en ce qui me concerne, je n'ai pas eu besoin d'avoir eu l'autorisation d'une institution extérieure à moi. J'ai pas passé un examen pour vendre cette offre-là à des gens sur un marché, à des clients sur un marché.
Oui, c'est intéressant. Après, je pense qu'effectivement, c'est pas forcément une notion de métier, mais plutôt la thématique que vous étudiez, le travail, finalement, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est votre quotidien au niveau de vos activités professionnelles liées à cette thématique ?
Oui, bonne question. Mon activité, elle est assez plurielle parce que je fais beaucoup de recherches, donc de lecture, d'écriture, de réflexion. Je lis des livres, des articles, je rencontre des personnes. Alors, en ce moment, ce sont des rencontres qui sont plus virtuelles qu'en présentiel, mais peu importe, c'est la même chose. Donc, c'est beaucoup de travail de recherche pour collecter de l'information et puis ensuite créer des conférences, des articles, des livres blancs, des livres sur ce sujet. Donc, c'est vraiment deux volets, lecture-écriture en gros, hein, ou lecture-écriture et conférences. Et puis sur le sujet lui-même, le sujet futur du travail, c'est une multitude en fait d'approches qui ne correspondent pas à une discipline en particulier. Donc il existe des sociologues du travail, il existe des historiens, il existe des psychologues, des médecins du travail, etc. Enfin, tout un tas de disciplines qui approchent le sujet du travail et éventuellement de ses transformations avec un angle très particulier. Et moi, ce que j'ai eu envie de faire quand j'ai créé mon entreprise en 2015 sur ce sujet-là, c'était de mêler plusieurs approches. Et en particulier, je suis passionnée d'histoire, donc je mêle beaucoup de réflexions qui sont des réflexions historiques, mais sur des sujets voilà, d'innovation, de business, de ressources humaines, qui ne sont pas des sujets que les historiens abordent beaucoup. Enfin, il n'y a pas énormément d'historiens sur ces sujets-là, en fait, sur les sujets de l'institution des ressources humaines, par exemple. C'est pas, y en a, hein, y en a quelques-uns, mais ce n'est pas quelque chose qui est beaucoup appréhendé avec cet angle-là. Donc je dirais que la spécificité que j'ai eu envie d'apporter quand j'ai créé cette activité-là, c'était de mêler une hauteur, de mêler des différentes disciplines et puis d'avoir cette hauteur de vue un peu historique que pas beaucoup de gens utilisent quand ils parlent de ce sujet-là.
Et c'est intéressant, vous avez dit que vous avez donc finalement inventé et créé cette activité-là en lien avec la thématique du futur du travail. Est-ce que depuis que vous avez créé cette activité-là, c'est resté un métier de niche, vraiment d'expert, ou est-ce que ça se développe? Est-ce que c'est en vogue maintenant? Est-ce qu'on en parle un peu plus?
Alors absolument, en 6 ans, puisque j'ai créé ma société en 2015, en 6 ans, le sujet est devenu vraiment omniprésent partout. Et alors, il ne veut pas dire la même chose pour tout le monde, puisque certains désignent des manières de travailler, notamment à distance. Donc, ça, ils vont s'intéresser aux outils qu'on utilise pour travailler en équipe dans une situation de télétravail. D'autres s'intéressent au sujet... d'une transformation de contrat dans la nature du contrat entre les travailleurs et les donneurs d'ordre et au rôle des plateformes qui mettent en relation des clients et une offre et une demande de travail. D'autres encore s'intéressent plutôt à l'influence de l'intelligence artificielle, à la robotique, à l'automatisation, se posent la question, y aura-t-il encore du travail demain? Voilà. Et en fait, il y a énormément de sujets. Et maintenant, aujourd'hui, je pense que cette approche un peu généraliste et historique du futur du travail, ça serait beaucoup plus difficile de lancer une activité là-dessus aujourd'hui qu'en 2015. Et donc, moi, en fait, j'ai eu au début une approche assez généraliste qui a oscillé ou alterné entre un point de vue plus individuel qui s'intéresse aux travailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire que se préparer à un monde du travail en transition dans une période qui est une période de changement de paradigme où on passe en gros d'une économie fordiste, industrielle, avec toute l'organisation qui allait avec, à une économie plus numérique où toutes les institutions qui vont avec ne collent plus tout à fait et il y a beaucoup de choses à réinventer. Et donc moi, c'était généraliste. Il y avait la question individuelle et puis la question collective, la question des organisations, la question de la transformation. Et je pouvais un peu toucher à tous les sujets, si bien que j'ai créé... je me suis fait un nom ou une expertise assez généraliste sur beaucoup de sujets, ce qui me permettait aussi d'avoir cette stimulation de m'intéresser tantôt à la question des freelances et au rôle des plateformes, tantôt à la transformation du monde des ressources humaines et puis, au match entre la direction des achats et la direction des ressources humaines en matière de freelancing, par exemple, ou encore à la question des reconversions professionnelles du point de vue de l'individu et comment on s'équipe, on s'arme dans un monde où les transitions professionnelles seront plus nombreuses. Et donc, c'était passionnant et puis surtout, ça permet de relier les sujets entre eux parce qu'en fait, le futur du travail, quand on le comprend comme... un ensemble d'institutions en transformation dans un monde qui vit une transition entre deux paradigmes, ça permet de toucher à tous ces sujets et puis de les mettre en relation et de comprendre un peu, comme on dit en anglais, la big picture, pourquoi tout est lié. et il ne peut pas avoir cette approche vraiment très pointue sur uniquement l'IA, l'intelligence artificielle, ou bien uniquement les reconversions professionnelles, etc.
Moi, je voulais revenir sur votre activité, une minute. Bah, du coup, ça fait un an, on en a parlé tout à l'heure, que vous avez lancé votre podcast à deux voix, et vous avez une newsletter aussi qui fonctionne d'une façon un peu particulière, qu'on ne connaît pas forcément, enfin, qui est sur abonnement. C'est des médias finalement assez nouveaux. Bon, le podcast, on en fait de plus en plus, hein, la preuve. Mais ma question, c'était qu'est-ce qui vous a donné envie de passer par ces canaux-là d'information plutôt que tout simplement rester sur des conférences, des livres ou d'autres prises de parole?
Alors, j'ai un peu touché à toutes sortes de médias dans mon activité d'écriture et de contenu au sens large, puisque j'ai travaillé avec des médias traditionnels, j'ai travaillé avec une entreprise comme Welcome to the Jungle, qui est devenue un très gros média, notamment sur les réseaux sociaux, et écrit des livres, donc avec ce processus très long, avec des éditeurs, où il y a une durée très longue avant d'arriver à le mettre, à diffuser, à publier un ouvrage. C'est des délais très très longs. Et en fait, chaque type de médias présente des avantages et des inconvénients, et puis touche des cibles un petit peu différentes. Et la nouveauté de ces 3-4 dernières années, c'est que tout d'un coup, il y a cette possibilité d'entrer directement en lien avec des lecteurs, des auditeurs, etc., qui donne naissance à beaucoup de nouveaux petits médias individuels, de gens qui lancent leur podcast, qui lancent leur newsletter, de manière tellement plus facile qu'il y a 4 ou 5 ans, que les barrières à l'entrée ont chuté. Alors la difficulté de tous ces nouveaux médias et de tous ces nouveaux supports comme Substack, qui est cette plateforme de newsletter que j'utilise pour le média que j'ai lancé avec mon mari, le média s'appelle Nouveau Départ. Donc, j'ai lancé en pleine pandémie, il y a un an, le 14 avril 2020. Et c'était, cette nouveauté, c'était de se dire, voilà, on peut finalement créer un média et entrer en contact avec un petit nombre, pas forcément un nombre gigantesque, de gens qui sont prêts à payer un abonnement. Et où du coup, on se passe de ce modèle des médias traditionnels qui consiste à générer des revenus avec de la publicité et qui oblige, pour générer des revenus avec de la publicité ou avec des abonnements, à toucher un très très grand nombre de lecteurs potentiels pour pouvoir avoir une existence et un modèle d'affaires pérenne et viable. Or là, avec ces nouvelles possibilités, ces nouvelles plateformes, eh bien, avec simplement une centaine d'auditeurs, de lecteurs, d'abonnés, on peut déjà générer une activité qui est viable et qui peut exister et qui nous invite en fait à exister vraiment en tant qu'individu avec ses spécificités, etc. C'est ce qui a été théorisé sous le nom de la passion economy il y a un ou deux ans. Il y a plusieurs penseurs américains qui ont introduit ce concept de la passion economy avec cette idée que finalement il faut être de plus en plus singulier dans son existence médiatique pour susciter l'intérêt d'un petit groupe. Alors, il y a plusieurs théories. Il y a certains qui disent qu'il lui suffit de 100 personnes qui vous suivent et qui vous aiment pour pouvoir exister médiatiquement parlant. D'autres qui disent que c'est 1000 fans. Enfin, voilà, il y a l'école des 100 et l'école des 1000 dans cette idée, dans la passion économie. Mais en tout cas, c'est un phénomène en très forte croissance. Ça a commencé sans doute avec YouTube. Donc, il y a déjà plus de 10 ans. C'est première génération de créateurs de la passion économie qui ont créé une activité et créé un média avec YouTube. Ensuite, depuis quelques années, on parle de cette explosion de l'économie des podcasts où les barrières à l'entrée ont chuté et où beaucoup d'individus s'emparent de cette possibilité de créer un média, un podcast. Donc, ça vient évidemment bouleverser l'économie traditionnelle des médias, de la radio, de la télévision, etc., qui ne savent pas trop comment faire face à ça parce qu'ils se rendent compte que leur audience s'effrite un peu parce qu'elle va aller écouter d'autres types de médias, de nouveaux médias, de petits médias qui leur parlent plus. Et puis, dans le monde de l'écrit, il y avait certes des blogueurs, mais la grande nouveauté, c'est la création de ces newsletters On pensait pendant longtemps que les newsletters, c'était vraiment juste du contenu de publicité qui vient polluer votre boîte mail. Et depuis quelques années, en fait, c'est des nouveaux médias, y compris parfois des grands journalistes qui créent, alors c'est très vrai aux États-Unis, qui créent leur médias à eux sur ce canal et viennent récupérer leur audience, celle qui les suivait déjà, pour vraiment créer. Et il y en a qui sont devenus des vraies entreprises, des grands médias. Il y a des journalistes américains qui ont quitté leurs grands médias pour créer une newsletter sur Substack. Substack a levé des millions de dollars auprès de capital risqueurs américains pour soutenir des auteurs, des écrivains, des journalistes dans la création de médias, dans la création d'une newsletter à eux et attirer comme ça les lecteurs qui peuvent être très très nombreux. Et certains ont créé des entreprises qui sont devenues gigantesques, presque aussi grandes que des médias traditionnels.
C'est hyper intéressant d'évoquer les nouvelles possibilités qu'offrent effectivement ces nouveaux médias. Est-ce que, selon vous, ça permet d'avoir plus d'autonomie, plus de flexibilité et plus de liberté aussi finalement dans la création ou le développement de ses activités professionnelles, qu'on soit finalement quelqu'un qui se lance, qui se reconvertit ou quelqu'un comme vous qui avait déjà une expertise et une façon de travailler avant ça?
C'est une très bonne question, se demander si finalement c'est ouvert à tout le monde de créer un média et d'en vivre ou de créer quelque activité que ce soit avec les plateformes nouvelles qui permettent de mettre en relation avec des clients, avec des fans potentiels. Je pense qu'aujourd'hui, plus d'une année après l'introduction de cette expression de passion economy, et puis avec une année de pandémie derrière nous, on se rend bien compte que c'est quand même beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît d'atteindre ce seuil critique à partir duquel on peut vivre d'une activité qu'on a créée de cette manière-là. Donc c'est en réalité, cette passion economy, ce n'est pas quelque chose qui n'est si facile que ça. Souvent, même si les barrières à l'entrée sont faibles pour la création de contenu, en réalité les barrières à l'entrée pour toucher un large public restent élevées. Les algorithmes montre que finalement on a cette espèce d'effet boule de neige quand on a déjà une audience existante, préexistante. Et donc c'est pas si facile pour une personne qui réussit à créer une chaîne YouTube qui va avoir des millions d'abonnés. On en a des dizaines et des dizaines d'autres qui restent tout petits et qui ne touchent pas une audience suffisante pour pouvoir générer des revenus de cette activité-là. Donc c'est en fait un univers très fragmenté. Où c'est difficile de se faire connaître, de faire grandir une communauté, et où finalement c'est le talent, les méthodes, les techniques, etc. pour réussir à grandir donne lieu lui aussi à toute une industrie de coach, de formation, etc. pour aider les individus à apprendre comment on fait, etc. Et évidemment en réalité c'est pas possible pour tout le monde. Ceci dit, pour beaucoup de gens, c'est une activité à côté. Et c'est une activité dont ils n'attendent pas forcément de vivre à 100%. C'est-à-dire que je pense que cette multi-activité, elle est de plus en plus courante. Et les possibilités de la passion économie sont des possibilités aussi, par exemple, de trouver un soutien à la reconversion professionnelle. Un exemple très concret, si vous faites une activité en tant que salarié qui vous barbe, qui vous saoule, et vous avez envie de vous reconvertir vers autre chose, vous allez lancer un podcast, un blog, une newsletter, etc., simplement pour explorer un sujet, pour vous créer une légitimité, pour vous créer un réseau dans le domaine ou le secteur qui vous intéresse et où vous aimeriez travailler plus tard. Et pendant un an et demi, vous allez rencontrer des gens, utiliser le podcast comme prétexte pour rencontrer des nouvelles personnes, pour vous créer un réseau pertinent dans le domaine dans lequel vous aimeriez travailler demain. Et du coup, cette activité, ce side project, cette activité annexe et supplémentaire à votre activité présente, elle n'a pas nécessairement pour vocation en tant que telle à générer des revenus suffisants pour vous permettre de vivre et de lâcher votre job d'aujourd'hui, mais elle va vous permettre de construire quelque chose, une légitimité, un réseau, une petite audience sur une activité sur laquelle demain vous aimeriez travailler. Et ça pourra être dans le salariat, c'est-à-dire que à force d'avoir créé du contenu sur ce qui vous intéresse, bah vous créez une, voilà, comme un CV virtuel qui vous donne de la crédibilité et qui fait qu'une entreprise va vous embaucher demain sur ce domaine-là. Donc c'est pas forcément en fait c'est pas forcément une entreprise en tant que telle, c'est peut-être simplement un moyen aussi d'explorer des choses, de rencontrer des nouvelles personnes pour vous créer une autre activité demain. Et ça, j'y crois beaucoup au fait que les newsletters, les blogs, les podcasts, etc., ce sont des outils d'exploration individuelle et de transition professionnelle qui sont incroyablement puissants.
Ouais. Et je pense que c'est aussi le fait de vouloir... Enfin, c'est aussi l'occasion de faire passer un message, de faire passer une conviction. C'est un peu un outil de propagande positive, j'ai envie de dire. Et du coup, tout à l'heure, on parlait de l'intérêt croissant du futur du travail. Est-ce que vous pensez que le fait de vouloir pouvoir advenir un futur plus désirable et une société du coup plus durable, est-ce que c'est une réelle volonté de s'emparer de ces questions de futur du travail? Est-ce que c'est pour avoir un lendemain meilleur par rapport à aujourd'hui qui ne nous satisfait pas?
Alors, le futur du travail, je pense qu'il y a une partie des réflexions qu'on développe autour de ce concept qui concerne effectivement l'économie, la soutenabilité de l'économie, l'impact d'une activité sur l'environnement, sur la planète. Et ça, ce sont des considérations qui rentrent de plus en plus dans le monde du travail. On le voit avec la popularité des labels comme B Corp, dont certaines entreprises s'emparent pour dire voilà, nous, regardez, notre manière de travailler, elle a un impact qui n'est pas un impact délétère sur l'environnement, la planète, la société, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur absolument partout et qui commence à toucher, en effet, le sujet du travail lui-même, c'est-à-dire de quelle manière l'organisation du travail en tant que telle peut être toxique, polluante, ou bien avoir un impact très négatif sur la société. Et donc je pense que voilà, il y a la question de l'environnement et puis il y a aussi la question en fait des inégalités et de l'impact sur la société, la manière dont ça nous fragmente. Et beaucoup des questions qu'on a eues sur le télétravail concernent la disparition ou les menaces sur le collectif, sur le vivre ensemble, sur le fait que le tissu social qui nous soutient se fissure, se défait, se désagrège à très très grande vitesse et que la solitude devient un problème de plus en plus fort et de plus en plus grand. Donc en fait, il y a énormément de questions sur l'impact et sur le sens. Voilà, il y a les questions individuelles et les questions collectives. Je ne sais pas sur quoi vous voudriez mettre davantage l'accent.
Justement, on savait que nous, nos auditeurs sont pas mal des personnes qui sont en quête de sens, en quête d'utilité dans leur métier, et on voit qu'il y a une explosion ces dernières années, c'est de la quête de sens dans son activité professionnelle. Et du coup, la question, c'était pourquoi, selon vous, on en est arrivé là?
La question pourquoi la quête de sens devient un sujet absolument incontournable pour beaucoup de travailleurs, en fait, pour moi, elle reflète un sentiment de malaise dans cette période de transition qui fait qu'on a été élevé avec l'idée que le travail venait avec un agrégat tout fait, c'est-à-dire, c'est comme la discussion qu'on avait sur le métier tout à l'heure, c'était un bloc qu'on prenait en échange de se mettre au service de quelqu'un, en échange d'une certaine aliénation au travail, subordination, division des tâches, etc. On avait un agrégat d'avantages multiples, avec une sécurité, avec un salaire, la possibilité d'emprunter pour accéder au logement, une protection sociale, des revenus différés sous forme de retraite, des syndicats, etc. etc., etc. Et puis aussi... une identité sociale dans un groupe, etc. Et en fait, tout ça se désagrège à très grande vitesse depuis des années déjà, au point qu'on se sent un peu démuni et que dans ce malaise, en fait, ce malaise, il reflète la désagrégation de ce contrat de travail avec lequel on a été, avec lequel on a été élevé et qu'on pensait être immuable. Et donc, cette quête de sens, c'est le reflet de quelque chose qui ne va pas. Puisqu'il n'y a plus toutes ces contreparties, bah pourquoi être subordonné? Pourquoi être aliéné? Donc, pourquoi accepter un travail ennuyeux, hein, pour le dire de manière claire, faute d'avoir les contreparties qui existaient autrefois? Ou malaise un peu différent, qu'on peut aussi associer à ça, c'est certains ont du sens dans leur travail, des infirmières, des professeurs, tout ce que vous voulez, mais ont tellement peu de contreparties que la question de la précarité et puis des défauts de protection sociale, etc., devient extrêmement fort et fait que, voilà, pourquoi est-ce que l'éducation nationale n'arrive pas à recruter les enseignants, il en manque des dizaines de milliers. C'est pas la question du sens, parce que si c'était seulement la question du sens, c'est un des métiers les plus utiles et plus gratifiants du point de vue du sens. Et pourtant, les contreparties sont pas là. Les contreparties font que voilà, l'organisation du travail est trop aliénante, c'est difficile, c'est mal payé, c'est mal considéré, c'est pas valorisé, etc. Donc on n'arrive pas à recruter. Donc c'est tout ça, et je dirais qu'il y a encore autre chose peut-être de plus fort. On parlait tout à l'heure de la question de l'environnement ou de la question de l'impact sur la société. Dans ce contrat de travail qui était vertueux au XXe siècle, il y avait cette idée que ce qu'on faisait, l'activité, elle était bonne pour l'économie, elle était bonne pour la nation. J'ai l'habitude d'utiliser cette phrase qu'on utilisait dans l'industrie automobile américaine, ce qui est bon pour General Motors est bon pour l'Amérique. Et c'est en fait quelque chose de très profond, c'était cette idée que bah, finalement en faisant tourner les usines, en allant au bureau, on contribuait à faire tourner les choses positivement pour tout le pays, pour toute l'économie. Et puis il n'était pas tellement question de destruction de la planète, etc. Donc il y avait cette idée qu'il y avait un alignement vertueux entre l'activité, même si c'était une petite chose qu'on faisait dans une entreprise, et puis l'intérêt général, en fait. Et ça, cet alignement, il n'existe plus. Pour beaucoup, on travaille dans des activités dont on n'est pas tellement sûr de qu'il y a cet alignement-là. C'est-à-dire, est-ce que ce que je fais, oui, certes, je peux m'enrichir personnellement ou je peux même trouver de l'intérêt intellectuel dans quelque chose, mais est-ce que ce que je fais sert vraiment à quelque chose? Est-ce que ce n'est pas, au contraire, une activité qui, finalement, est profondément toxique? Et donc, ça, on retrouve ça dans les discussions sur voilà, les questionnements autour de la croissance économique, du PIB, etc. On dit, mais finalement, tous les indicateurs dont on dispose, ils sont tous mauvais parce que ils ne mesurent pas la création de valeur avec un grand V comme il faudrait, et je ne sais même pas si ce que je fais a vraiment de la valeur avec un grand V. Donc ça, c'est un désalignement très profond, relativement nouveau, quelques décennies tout au plus, qui vient, on va dire, nourrir de manière encore plus aiguë cette crise de sens. Et puis troisième chose qui a un peu disparu, c'est qu'on avait des pratiques collectives plus nombreuses et plus fortes qui nous donnaient du sens dans la vie, en fait, qui nous donnaient un sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand que nous. On le trouvait dans le travail, mais on le trouvait aussi dans une appartenance syndicale, on le trouvait dans une appartenance à un parti politique, et puis on le trouvait dans une appartenance à une communauté religieuse. Or, toutes ces choses-là, qu'il s'agisse de la religion, du syndicalisme, de l'activité politique traditionnelle, tout ça, c'est complètement désagrégé, décliné très rapidement, très fortement, au point que, en fait, l'appartenance à une communauté, le fait de se nourrir spirituellement, religieusement, au sens large, hein, il ne s'agit pas d'une religion en particulier, eh bien, il nous manque quelque chose. On est tellement en manque de spiritualité qu'on va aller le chercher dans le travail, alors qu'autrefois, on n'allait pas forcément le trouver dans le travail. Et du coup, ce qui se passe, c'est que dans cette quête de sens, on met tellement de choses sur l'avenir de la planète, l'avenir de la société, nos besoins religieux, spirituels et profonds, notre recherche de communauté, qu'en fait, la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que ce n'est pas un petit peu trop? Est-ce que c'est possible de trouver dans le travail à satisfaire absolument tous ces besoins? Et est-ce qu'en attendant tant du travail, on ne risque pas d'être fortement malheureux parce que la question, est-ce que c'est pas impossible de trouver dans une activité, un métier, un poste ou même une activité qu'on invente à satisfaire tout ça ? Est-ce possible ?
C'est hyper intéressant et un peu angoissant en même temps de réfléchir à tout ça, mais du coup, au regard de tout ce que vous venez de dire, est-ce que, en tout cas pour vous, c'est quoi finalement un travail qui a du sens, mais est-ce que c'est même désirable finalement ?
Exactement. Est-ce qu'on ne devrait pas, finalement se sentir mieux, arrêter de penser que le travail doit remplir tous les besoins qu'on a, qu'ils soient spirituels, intellectuels, de communauté, etc. Et réfléchir plutôt à l'ensemble de son équilibre de vie, qui est que bah, y a plein de besoins qu'on va trouver plutôt dans sa vie privée, qu'il faut nourrir ses amitiés, parce que les relations humaines qu'on a, bah, elles sont très très importantes pour la santé, la longévité, le fait de se sentir heureux, ça dépend essentiellement en fait de la qualité, de la force, de la densité des relations humaines qu'on entretient, des amitiés, des relations familiales, etc. Et donc si on cherche à avoir des amitiés au travail par exemple, c'est peut-être pas c'est pas impossible, mais c'est peut-être pas une très bonne idée, parce que c'est vraiment mettre tous ses œufs dans le même panier en fait, hein, et quand le panier du coup se fissure, on perd tout. Donc se dire que voilà, un équilibre de vie, c'est tout un tas de choses, que certaines activités qui vont vous remplir spirituellement ne sont pas forcément professionnelles, que certaines activités qui vont vous donner ce sentiment d'être utile peuvent être des activités pour lesquelles vous n'êtes pas rémunéré, et qu'en fait, réfléchir à ce que moi j'appelle le bundle, enfin cet agrégat qui vous satisfait, on ne va pas tout trouver dans un seul paquet, et qu'il faut le recomposer en trouvant un équilibre entre plein de choses différentes. Et peut-être enlever un peu de cette pression qu'on se met sur la quête au travail, la quête de sens au travail, pour se dire, calmons-nous un petit peu, en fait, peut-être chercher à faire des choses plus simples, c'est-à-dire... se dire qu'est-ce qui est le plus important pour moi dans mon activité professionnelle, est-ce que c'est d'être avec des gens que j'aime bien, des gens sympathiques avec qui je me sens bien, et que l'activité que je fais qui me permet de payer le loyer et de payer mes courses, c'est peut-être pas une activité qui va changer le monde, sauver la planète et lutter contre le réchauffement climatique. En revanche, je me sens bien avec un groupe de gens avec qui je m'entends bien et je n'ai pas la boule dans le ventre le matin en allant au travail. Ben c'est peut-être très bien comme ça. Et puis si à côté, j'ai envie de faire quelque chose pour la planète, eh bien, rien ne m'empêche d'avoir une activité supplémentaire qui me permet de rencontrer d'autres gens, qui m'intéressent. Ou ça peut être intellectuellement, voilà, une activité du type j'ai un podcast qui me permet de réfléchir à un sujet qui me passionne et de rencontrer des gens que j'admire, et ça me remplit, et ça complète une activité professionnelle dans laquelle peut-être il manque cet élément-là. Et à peut-être arrêter de se dire que dans un poste de travail, qu'il soit salarié ou pas, on peut absolument trouver tout. Et aligner tout en se disant je vais faire quelque chose qui me passionne, qui sauve le monde, avec lequel je rencontre des gens et en plus je gagne ma vie, c'est pas toujours possible en fait.
Et est-ce que la solution finalement elle serait pas dans cette multi-activité dont on a parlé tout à l'heure? On les appelle des slasheurs aussi, ce sont les personnes qui cumulent différentes activités, mais je pense que ça peut être des activités rémunérées, des activités bénévoles, des side projects, enfin différentes activités au sens très large. Est-ce que finalement, on ne se dirige pas vers ce type de statut de slasher ?
Exactement. Alors, le slasher, ça, au sens strict, tel qu'on l'a utilisé en France, c'est pour désigner des gens qui ont plusieurs revenus avec plusieurs activités. Mais comme tu l'as dit, en fait, ça peut tout à fait être une activité principale qui est la seule qui génère des revenus, et puis des activités complémentaires qui sont des activités dont on n'attend pas de gagner de l'argent, en fait, desquelles on n'attend pas autre chose que... les possibilités de rencontrer des gens sympathiques ou de faire des choses intéressantes ou de faire des bonnes actions. Et en effet, cet équilibre de vie, il pose la question du temps de travail, par exemple, ou du rapport à l'activité quand on est salarié, qui peut être parfois tellement chronophage et tellement... et il nous mangeait tellement de toute sa vie personnelle qu'on n'a pas de place pour autre chose. Donc, il s'agit, dans ce cas-là, quand on regarde la multi-activité au sens large, de redonner au travail et au travail rémunéré salarié, par exemple, une place qui est pas absolument tentaculaire et gigantesque et qui laisse de l'espace pour ses autres activités. Et c'est pour ça, je pense, que beaucoup de gens voudraient travailler moins, avoir des horaires plus réduits, avoir un meilleur équilibre des temps de vie professionnelle, vie privée, vie familiale, etc., pour pouvoir vivre pleinement toutes les facettes qu'ils ont envie de faire vivre dans leur personnalité.
Oui, c'est ce fameux équilibre à trouver qui peut être compliqué. J'ai lu récemment votre dernier livre, Du labeur à l'ouvrage, que je recommande à tout le monde, il est vraiment, vraiment super. Et vous parlez, pour compléter aussi cette vision de la multi-activité, vous parlez aussi de donner une dimension plus artisanale au métier de demain. Alors, là-dedans, évidemment, tout le monde ne peut pas être néo-artisan, brasseur, permaculteur, c'est pas vraiment possible. Mais du coup, comment faire pour que les personnes puissent mettre plus de cette dimension artisanale dans leur propre métier? Comment on peut faire évoluer avec ce prisme-là le métier d'aujourd'hui?
Je pense que, en fait, l'artisanat, c'est tel que je l'entends dans mon livre, c'est quelque chose de beaucoup plus large que les métiers de l'artisanat que tu viens d'évoquer, et ça concerne plutôt une manière d'appréhender le travail qui s'éloigne des éléments de l'organisation scientifique du travail de la période fordiste industrielle, de l'industrie automobile. On dire qu'en fait, puis si on repense le travail autrement, on laisse plus de place à l'autonomie, on laisse plus de place à la créativité, c'est-à-dire on laisse tomber cette idée qu'il existe une manière de faire, un « one best way », comme dirait Taylor, qu'il s'agit de répliquer, et puis plus de place à la relation directe justement entre le travailleur et le résultat de son travail, que ce soit un client avec lequel il travaille directement, quand il est par exemple freelance, ou que ce soit... Le résultat du travail, si cette personne est salariée, d'avoir une vision globale du produit, de la raison de ce qu'on fait. Et donc, cette espèce de désintermédiation, elle est vraiment très importante. D'ailleurs, elle rejoint aussi la question de la quête du sens. C'est-à-dire qu'on n'a plus envie d'être un tout petit maillon interchangeable dans une grande chaîne de production, mais envie plutôt d'être... maître de son destin professionnel, mais aussi du choix des outils, du résultat du travail, de l'impact, etc. Et donc, c'est vrai autant pour quelqu'un qui fait du développement informatique, qui a envie d'être fier de son travail et d'avoir l'impression de bâtir une cathédrale. C'est un vrai mouvement de ce qu'on appelle le software craftsmanship, cette idée que, en fait, il y a vraiment la notion de l'artisanat dans le fait d'écrire du code informatique. On laisse une petite trace de soi qui est vraiment individuelle, mais ça se retrouve aussi dans des métiers de service, des métiers de service notamment de support client, où on se dit finalement on n'a pas envie de suivre un manuel avec un script qui a complètement été fait pour nous rendre interchangeables, mais on a envie, pour pouvoir se sentir être vraiment utile, de donner de soi, en fait, pour résoudre des problèmes. Et en fait, ce que ça décrit, c'est que c'est une transformation profonde des manières d'organiser le travail, où on passe de quelque chose qui est l'organisation scientifique avec ceux qui pensent, ceux qui exécutent, des processus qu'il s'agit de répliquer à la lettre, ce qui marchait très bien pour l'économie de masse industrielle, à quelque chose qui est beaucoup plus dans l'esprit de l'itération, de l'économie numérique, où on va réagir en fonction des données qu'on collecte pour faire toujours un petit peu mieux. On lance au début quelque chose qui n'est pas parfait. Hein. C'est cette notion dans l'économie numérique, on parle de MVP, de Minimum Viable Product, quelque chose qui n'est pas parfait. Une application, par exemple, qui est vraiment une version bêta qui n'est pas extraordinaire, mais on la lance. Et puis, les internautes, les utilisateurs, en l'utilisant, vont d'abord, les premiers vont en plus faire des feedbacks complets, faire leur retour direct à l'entreprise. Et puis surtout, en l'utilisant, ils génèrent des données qui permettent aux concepteurs de cette application de l'améliorer petit à petit, jour après jour, avec cette idée qu'il n'y a pas de produit parfait et puis il n'y a pas de produit tout fait qu'on lance sur le marché. Alors qu'avant, il fallait avoir un truc tout fait, un prototype parfait, et puis ensuite, on lançait les grandes séries et on produisait par milliers, par centaines de milliers, par millions, et puis on lâchait ça sur le marché. Et là, c'est très différent. C'est on commence petit et puis on améliore. Et puis après, on peut tout aussi bien être passé à très, très grande échelle. Quand on a une application numérique, par exemple, qui est utilisée par des millions d'utilisateurs, ça n'empêche pas la grande échelle. Mais c'est une espèce de nouveauté, c'est que c'est une personnalisation qui n'est pas incompatible avec la grande échelle. Et cette logique de personnalisation, en fait, elle est profondément artisanale. Et du coup, on retrouve des éléments de l'artisanat, des éléments de l'époque pré-industrielle qui nous semblent tout d'un coup compatibles avec une économie numérique et avec des principes d'organisation du travail qui vont avec l'économie numérique. Et ce qui n'est pas évident, c'est que pour beaucoup d'entreprises, en fait, on a tellement l'habitude de fonctionner selon les principes industriels que de passer tout d'un coup à une logique de tester, itérer, être polyvalent, être agile, etc. C'est vraiment très très compliqué parce que culturellement c'est vraiment pas du tout la même chose.
Ce qui est hyper intéressant en fait avec cette façon de concevoir le travail ou en tout cas son futur, c'est de se dire qu'il y a des nouvelles façons de travailler, de collaborer, d'organiser le travail. Il y a aussi potentiellement du coup des nouveaux métiers qui se dégagent de ces nouvelles façons de faire. Est-ce que pour vous les métiers de demain, c'est forcément des métiers qui n'existent pas encore? Souvent c'est l'image qu'on a d'ailleurs quand on utilise cette expression métier de demain, on pense au métier du numérique, nouvelles technologies, etc. Ou est-ce que ça peut être aussi le retour des métiers d'antan, les métiers d'aujourd'hui, mais qu'on pratique différemment? Enfin, finalement, pour vous, les métiers de demain, c'est quoi?
Alors, il existe évidemment des tas de métiers qu'on n'est pas capable d'anticiper, qui sont qu'est-ce que sera le développeur Python de demain et qui auront un rapport avec des nouvelles technologies et tout. Mais finalement, en termes de quantité de personnes qui sont concernées, c'est très peu de monde. Et c'est un peu la grosse erreur qu'on a fait dans le tournant de l'an 2000, où on imaginait que tous les métiers d'usine, les métiers d'ouvriers qui disparaissaient allaient être remplacés par des nouveaux métiers dans les nouvelles technologies et que, en gros, on allait pouvoir faire de tous les ouvriers qui voient leur usine fermée, des développeurs dans 5 ans, il suffit pour cela de les former. Et en fait, grosse erreur, c'est qu'on s'est rendu compte que des très grandes entreprises comme Apple, etc., en fait, créent très peu d'emplois. Alors, petite parenthèse, c'est que Apple a une partie d'emplois d'usine aussi, mais qui sont plutôt en Chine, donc c'est pas tout à fait le bon exemple, mais on va dire Facebook, par exemple, très peu d'emplois par rapport à une grosse entreprise industrielle qui avait la même valeur économique il y a 60 ans. Et donc, en fait, les emplois de demain ne vont pas être massivement des emplois de nouvelles technologies. C'est complètement faux. Bien sûr, il y en aura. Et il y aura besoin de gens qui sont à la pointe pour bien analyser les données. Et puis... il y aura des nouvelles plateformes, des nouveaux usages qui font qu'il y aura besoin de gens qui vont être capables de maîtriser des nouvelles manières de faire. Mais en termes de quantité d'emplois, je suis très sceptique sur cette idée que les nouveaux emplois, c'est forcément là-dedans, c'est forcément des gens qui sont capables de travailler avec l'intelligence artificielle, etc. En fait, dans la très grande masse, on est capable de prédire avec énormément de justesse qu'on va avoir besoin à l'échelle par exemple de l'Union européenne de millions d'infirmières qu'on ne sera pas capable de recruter, de millions voire dizaines de millions de personnes qui accompagnent des personnes âgées à domicile. Quand on regarde l'évolution de la pyramide des âges, on est capable de dire avec quand même pas mal de justesse que les personnes de plus de 80 ans vont représenter le segment démographique le plus important, que parmi eux, il y aura X% de gens qui seront en situation de dépendance ou en situation d'avoir des besoins de soins très importants. On est capable de dire aussi que parmi les personnes actives de plus de 60 ans, Il y en a beaucoup qui consommeront de manière très différente beaucoup d'expériences, de soins au sens large, mais soins, formation, cours de yoga ou autre. Et en fait, on est capable de dire que, avec pas mal de certitudes, qu'il y aura des besoins gigantesques dans ce que j'appelle les services de proximité. Donc, qu'il s'agisse d'enseignement, de soins, d'accompagnement, de coaching, de médical, hein, tout ce qui est médical, médecin, infirmière, etc. Là, on peut déjà dire qu'on manque de gens et qu'on en manquera demain. Et donc, en fait, ce sont des métiers qu'on connaît, en fait, hein, des métiers qui existent déjà, qui existeront encore. Et bien qu'il existe des inconnus sur quelle vitesse avancera la robotique et l'intelligence artificielle, en fait, on est quand même capable de dire avec certitude que les besoins de relations humaines seront gigantesques parce que la solitude augmente à très grande vitesse et qu'on aura besoin de gens pour tenir la main au sens physique et au sens propre, pour tenir la main des gens. J'aime bien cette image de tenir la main parce que c'est vraiment quelque chose qui est très fort et très puissant et dont on manque beaucoup et dont on a énormément manqué pendant cette pandémie où on a vécu à très grande échelle une crise du toucher et les métiers du toucher, qu'il s'agisse du coiffeur ou de la coiffeuse qui va masser la tête d'une personne âgée qui vit seule, dont c'est la seule occasion d'être touchée par un autre être humain. Et donc tout ça, c'est des millions d'emplois, en fait, si on les met bout à bout. Les travailleurs et les travailleuses domestiques, parce que c'est surtout des femmes, plusieurs millions de personnes, 2 millions de personnes en France, hein, et notamment les assistantes de vie qui viennent au domicile de personnes âgées pour les accompagner dans les gestes du quotidien. C'est énormément, énormément d'emplois, énormément de métiers. Et les questions qui se posent, c'est pas est-ce qu'il y en aura demain, c'est quel choix de société on fait aujourd'hui pour financer des besoins dont on sait qu'ils existent.
Oui, donc du coup, vous l'avez dit, ces services de proximité, finalement, ils sont majoritairement occupés par des femmes. Et moi, j'avais envie de vous poser la question pour ce qui va arriver, le travail de demain, quelle doit être la place et le rôle des femmes dans cet avènement, dans l'idée d'avoir effectivement un futur plus souhaitable.
C'est vrai que la crise que nous vivons a été qualifiée par certains penseurs, penseuses, de « she session », c'est-à-dire une récession qui frappe tout particulièrement les femmes, parce que ce sont ces métiers dans les services de proximité qui ont été touchés durement par la crise. Néanmoins, malgré cette récession qui frappe fortement les femmes, tout laisse à penser que elles sont néanmoins l'avenir du travail de beaucoup de manières différentes, en fait. La première, on l'a dit, c'est qu'elles sont très présentes dans ces métiers, dans tous ces métiers qui vont beaucoup recruter demain. Donc l'enseignement, je l'ai dit, on cherche à recruter déjà, il y a déjà des dizaines de milliers de postes qui ne sont pas pourvus chaque année. Les infirmières, là aussi, on a toujours des articles alarmants sur les manques et les difficultés de recruter. Les médecins, les assistantes de vie, voilà, tous les métiers du soin, des services à la personne, de la santé, de la transmission. Donc tout ça qui sont associés culturellement à des valeurs féminines, ou associés aux femmes culturellement, hein, c'est une construction historique, bien sûr, ça n'a rien de génétique, on n'est pas génétiquement meilleur pour faire ces choses-là. Et le grand défi pour valoriser ces métiers davantage demain, ça va être de les masculiniser, en fait. Ça va être de recruter plus d'hommes. Parce que le jour où il y aura plus d'hommes infirmières, plus d'hommes professeurs, etc., on sait que d'un coup, ça sera plus facile de les valoriser, en fait. Et c'est un peu triste, mais c'est que les métiers qui se féminisent très vite, souvent, sont des métiers qui se dévalorisent. Ça s'est passé dans beaucoup de métiers juridiques. Les juges, les magistrats, etc., sont aujourd'hui beaucoup plus des femmes que des hommes dans les nouveaux entrants. Et en valeur relative, ils ont été beaucoup paupérisés, en fait. Ils sont beaucoup moins rémunérés, moins valorisés qu'autrefois. C'est pareil dans l'enseignement. À mesure que le métier d'enseignant s'est féminisé, il s'est aussi dévalorisé. Donc, inversement, du coup, si on veut les revaloriser, il va falloir recruter des hommes. Et puis, parce que si les métiers qui recrutent le plus demain sont les métiers dans lesquels aujourd'hui il y a 80% de femmes, ben, ça veut dire qu'il va nous falloir des hommes. Il va nous falloir des hommes parce que sinon, ils n'auront plus de travail. Donc, ça, c'est des grands sujets par rapport au secteur et aux valeurs associées à des compétences qui vont être valorisées demain. C'est vrai dans tout un tas d'autres métiers où quand on regarde les listes des soft skills et des skills en général, hein, de l'ensemble des compétences dont on dit qu'elles seront en vogue dans les prochaines années, ben ça correspond toujours à des choses qui sont culturellement associées aux femmes, qu'il s'agisse de l'empathie, de la capacité d'écoute, de la capacité à créer, nourrir des communautés de gens qui sont bien liés, de la capacité à faire attention aux éléments culturels, qu'il s'agisse de la culture d'entreprise ou de la culture avec un grand C. Quels que soient les sujets, on est sur des compétences qui sont historiquement associées au féminin. Et à la fois, c'est très bien, parce que du coup, ça nous amène à dire que plutôt que de chercher toujours à former les femmes à se comporter davantage comme des hommes, on va peut-être plutôt former des hommes à se comporter plus comme des femmes. Mais ça nous questionne aussi toujours sur les questions de valorisation. Parce que est-ce que ce ne sont pas un peu des discours qui sont des vœux pieux quand on dit « Oh, les soft skills formidables, les femmes, elles sont formidables », mais en fait, on est toujours sur cette idée de vocation, de quelque chose qui n'est pas forcément amené à être valorisé économiquement parlant, à être bien rémunéré, etc. Donc, je me méfie un peu de ces discours qui encensent les femmes ou encensent les valeurs dites féminines, alors avec plein de guillemets, parce que c'est toujours un peu… en réalité, c'est pas là que se trouve le pouvoir, c'est pas là que se trouve l'argent, c'est pas là que se trouve la valorisation au sens large. Mais bon, néanmoins, on peut être à peu près certain que ces valeurs-là et ces compétences-là, on en aura besoin demain. Et puis la troisième chose, peut-être intéressante aussi, c'est que la manière dont les femmes, la majorité d'entre elles, appréhendent la carrière et l'organisation du travail, elle est déjà très imprégnée de cette recherche d'équilibre entre les contraintes multiples, de la place du travail gratuit qui se passe dans le foyer, qu'il s'agisse de s'occuper des enfants, du ménage, etc. Et elles ont souvent déjà des carrières un peu plus hachées, surtout quand elles sont mères, parce qu'elles ont eu des ralentissements, des accélérations, etc., des moments où elles ont dû jongler avec des contraintes multiples. Or, cet apprentissage qu'ont fait beaucoup de femmes face à des contraintes, eh bien, c'est quelque chose auquel tout le monde va être confronté dans le monde du travail de demain, qui sera fait de plus en plus de transitions professionnelles, d'entreprises qui disparaissent, de choses à réinventer, de mobilité forcée ou choisie. Et du coup, les femmes sont mieux armées parce qu'elles ont déjà l'habitude de ne pas vivre dans une vie en trois phases où on se forme, on travaille, ensuite on part à la retraite. Elles ont déjà une vie multiphase avec toutes ses facettes. Et cet apprentissage qu'elles font finalement d'être beaucoup plus efficaces, d'intégrer, plutôt que de chercher l'équilibre, de chercher l'intégration entre les différentes contraintes de vie, les différentes... le fait d'amener son enfant au travail, etc., etc. Les femmes, elles cherchent beaucoup plus l'intégration, en fait, le fait de pouvoir combiner tout ça, fusionner ça, un peu comme réconcilier des choses qu'on avait séparées. On a dit à un moment, voilà, il y a le travail gratuit, il y a le travail payant. Le travail gratuit, ça se passe à la maison, le travail payant, ça se passe en dehors de la maison. Et ça, c'était une fiction, quelque chose qui a été construit de manière assez artificielle, qui est d'ailleurs anti-artisanal, et quand on revient vers l'artisanat, on peut réconcilier les deux, c'est-à-dire intégrer les deux, pas chercher à les séparer, en fait. Et c'est ça qu'apportera un travail beaucoup plus autonome. C'est un travail beaucoup plus autonome, c'est un travail où on peut réconcilier tout ça de manière beaucoup plus facile, flexible, agile, avec une plus grande liberté. C'est vers ça qu'on aimerait toutes et tous aller, et les hommes aussi.
Oui, alors là-dessus, on est bien d'accord avec vous, ça c'est une certitude. Bon, la bonne nouvelle, c'est que visiblement, les femmes sont mieux armées pour, en tout cas, se préparer au futur du travail, donc ça c'est une bonne chose. En tout cas, si l'avenir du travail, finalement, c'est le développement des métiers qui sont essentiellement féminins, en tout cas historiquement, vous l'aviez un peu dit tout à l'heure, l'idée, ça serait quand même qu'il y ait plus de mixité, et finalement, donc, dépasser... la question du genre quand on parle de métier, selon vous, comment on fait en fait pour dépasser ce clivage genré quand on parle de certains métiers?
J'aimerais beaucoup avoir une réponse à cette question. C'est la question qui me travaille le plus et que je trouve la plus difficile parce que on a beau avoir observé des tas de progrès dans l'avancée dans la marche de l'égalité entre les hommes et les femmes au travail. Et je suis contente de vivre en 2021 et pas en 1970, hein, à cet égard. Mais pourtant, ce qu'on voit, c'est que le travail de ces femmes qui réussissent à faire des belles carrières dans toutes sortes de disciplines, qui sont rentrées dans des mondes masculins, eh bien, le travail de soins et le travail de, voilà, le travail dit reproductif, eh bien, il reste fait à plus de 80% par des femmes. Et ça ne change pas. C'est-à-dire que ce qui change, c'est qu'il y a des femmes qui investissent des mondes dits masculins, des femmes ingénieures, des femmes PDGères, des femmes qui sont comptables, qui sont toutes sortes de choses. Mais par contre, des hommes infirmières, il en a très très peu. Des hommes qui s'occupent des personnes âgées à domicile, il y en a très très peu. Des hommes qui s'occupent d'enfants, qui sont nounous, il y en a très 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 peu. Et ça ne bouge pas, les chiffres ne bougent pas. Et donc la question, c'est nos constructions identitaire, culturelle, etc. Et la division sexuelle du travail à très grande échelle, elle reste extrêmement forte. Et je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas quelles sont les meilleures stratégies pour casser cette construction pluricentenaire. Je n'ai pas la réponse. Mon intuition, c'est que les valeurs de l'artisanat et la progression de l'autonomie au travail va permettre une meilleure intégration et où du coup cette division sexuelle du travail pourra être atténuée de cette manière-là. Après, une autre piste de réflexion, c'est que sur ces métiers comme par exemple celui des infirmières, il y a un gros enjeu qui est un enjeu de valorisation et que avec des tas de programmes où on cherche à créer des rôles modèles masculins dans le métier, à recruter mieux, à avoir des enjeux de faire améliorer la rémunération, etc. Ben là, on a la possibilité de recruter des hommes. Parfois, les hommes pionniers, ce sont les immigrés, parce que les immigrés qui ont déjà fait ce travail de transformer leur identité, de remettre en question leurs acquis et leur identité, ils sont souvent plus prêts à aller là où on les attend pas, en fait, à casser les codes. Il y avait pas mal de réflexions intéressantes qui ont été faites aux États-Unis sur les hommes infirmiers. Les hommes infirmiers, donc ils représentent entre 10 et 15% de l'ensemble de la profession, donc c'est quand même très très peu. Ben, ce sont beaucoup, par exemple, des latinos, ce sont beaucoup des personnes qui ont déjà en fait un travail sur l'identité ou qui ont déjà eu une identité parfois très, très questionnée et qui sont parfois des étrangers au sens où ils ne sont pas nés dans le pays, ils ne partagent pas la même histoire et du coup, ils sont prêts à aller ailleurs, à aller là où on ne les attend pas.
Et de mon point de vue, donc il y a quand même encore pas mal d'inégalités entre les hommes et les femmes dans la sphère du travail. On en a déjà un peu parlé. Moi, je pense surtout à l'articulation des temps professionnels et familiaux qui pèsent majoritairement sur les femmes, qui peuvent les handicaper du coup sur leur carrière, leur salaire, leur responsabilité aussi. Même si vous avez évoqué quelques pistes, comment vous voyez l'évolution de ces sujets-là dans le futur du travail? Est-ce que finalement ça sera quand même un peu plus équitable, un peu plus juste, qu'il y aura une meilleure répartition entre les hommes et les femmes sur ces sujets-là en tout cas?
Oui, parce que ce sont les inégalités au sein du foyer qui se répercutent dans le monde du travail. Si au sein du foyer, vous avez une personne qui pour le dire très clairement, a une carrière bien plus avancée que l'autre, qui gagne beaucoup plus d'argent que l'autre, s'il faut faire des sacrifices, et ça s'est vu pendant la pandémie, c'est la personne qui gagne le moins qui doit sacrifier sa carrière. Donc très concrètement, ça a pris la forme suivante pendant la pandémie, c'était que s'il y a une pièce à part pour travailler, pour bien télétravailler, c'est la personne qui a la meilleure carrière qui la prend. Et le plus souvent, c'était un homme. Et du coup, les chiffres ont montré, quand il y a eu plusieurs études qui ont été menées pendant l'année 2020, que les femmes étaient beaucoup plus nombreuses à travailler sur un coin de table dans la cuisine, entre la préparation de deux repas et avec des enfants qui hurlent parce qu'ils n'ont pas l'école. La pièce à part, la chambre à soi, comme dirait Virginia Woolf, elle était plutôt réservée à monsieur qui a une carrière plus avancée. Et c'était pas forcément un choix purement sexiste, c'est pas si simple que ça, c'est un arbitrage économique qui reflète une réalité existante. Et du coup, cette réalité existante, qui est une inégalité de départ, elle est amplifiée, accentuée. Et ces arbitrages-là, ils sont en fait déterminés par des situations, des inégalités sur le marché du travail existant, mais aussi des choses très concrètes comme le cadre fiscal. Là, il y a des choix de société à faire. Moi, j'habite en Allemagne. En Allemagne, il y a un système fiscal qui fait que quand vous êtes un foyer, vous payez beaucoup moins d'impôts s'il y a des très grandes inégalités de revenus. C'est-à-dire que si, en gros, monsieur gagne très bien sa vie et madame gagne très peu, c'est plus intéressant fiscalement parlant que si les deux gagnent bien leur vie. Et du coup, cette femme, parce que c'est la plupart du temps des femmes, qui s'est arrêtée de travailler pour s'occuper des enfants ou qui a pris un mi-temps, parce que beaucoup de femmes travaillent à mi-temps en Allemagne, pour s'occuper des enfants, quand elle va vouloir revenir à la vie active, il va y avoir une très forte désincitation. On n'est pas incité à refaire carrière, puisque tout ce qu'elle pourrait gagner en plus va être mangé en impôts. Donc ça, ce système de fiscalité qui va finalement inciter à des grands écarts, il est profondément délétère parce qu'il va imprimer des choix au sein du foyer qui vont amplifier ces inégalités. Un autre exemple, c'est la question des infrastructures et puis des services publics et des services de garde d'enfants, d'école, etc. C'est que ce sont aussi des choix de société qui vont déterminer la possibilité pour ces femmes de reprendre une vie active ou d'avoir une vie active pleine tout en étant dans une situation de maternité. Donc, en fait, il y a beaucoup de choix qui sont quand même des choix structurants qui concernent la fiscalité, les services publics, les services à l'enfance, les systèmes d'incitation qu'on met en place, la nature des infrastructures, la manière dont ces infrastructures sont conçues et pensées. Est-ce qu'elles sont pensées pour des hommes qui vont travailler au bureau ou est-ce qu'elles sont pensées pour tout un tas de différentes personnes dans la société, les services de transport, en fait, énormément de choses qui sont quand même plus collectives, plus politiques et qui ont une influence énorme sur les choix et les arbitrages qui sont faits à l'intérieur du foyer.
Oui, c'est vrai que ça met en lumière le fait qu'il y a énormément de choses à prendre en compte sur ces sujets-là pour arriver à avancer vers, en tout cas, plus d'équité entre les femmes et les hommes au sein de la sphère du travail. On pourrait en parler des heures. Malheureusement, on va devoir s'arrêter là. J'ai juste une toute dernière question avant qu'on arrête. Donc, juste en deux mots, selon vous, la crise qu'on connaît aujourd'hui, la pandémie mondiale liée à la Covid-19, quel impact ça a sur les femmes et sur le futur du travail de manière plus générale ?
En deux mots, c'est une catastrophe. La situation des femmes dans de nombreux pays s'est dégradée énormément. Les Japonaises se suicident plus que jamais. Les Indiennes vivent des mariages forcés comme jamais auparavant. Et les Américaines, par exemple, pour beaucoup, ont dû quitter le monde du travail pour s'occuper d'enfants à la maison parce que les écoles ont été fermées pendant une année entière. Donc c'est un désastre dont il faudra énormément d'années pour se remettre et il y a un écart, un décalage qui s'est accentué. Mais le positif, c'est qu'on a posé des nouvelles questions et des bonnes questions qui font avancer les choses, notamment au point de vue politique. Quand on regarde aujourd'hui le plan qui a été mis en place par le gouvernement Biden aux États-Unis, on voit que la question qui est posée, c'est que les services de garde d'enfants, par exemple, sont appréhendés comme un sujet d'infrastructure. Et ça, c'est une grande nouveauté. Donc, dans le plan de, je ne sais plus combien, de... je ne sais pas ce que c'est que des trillions en français, des milliards de milliards, hein. Eh bien, 1000 milliards, pardon. Donc, c'est 2000 milliards de dollars, le plan Biden. Il y a une énorme place qui est faite au sujet des services qui permettent à ces femmes de ne pas quitter le monde du travail et de faire de sujets qui sont, aux États-Unis, qui sont vus comme des sujets individuels, d'en faire des sujets collectifs. C'est une nouveauté. Et à cet égard, les États-Unis sont en train de devenir un peu à la pointe alors qu'ils étaient vraiment à la traîne. Et politiquement, on voit qu'il se passe beaucoup de choses. Et qu'il y a toute une nouvelle génération, notamment aussi de femmes en politique comme Alexandria Ocasio-Cortez, comme Elizabeth Warren, qui font beaucoup, beaucoup avancer la cause. Et qui font que c'est peut-être que l'inspiration va venir de là, va venir de l'Ouest.
Bon, alors la bonne nouvelle, c'est qu'il faut rester optimiste, en tout cas, et continuer de s'inspirer. Merci beaucoup, Laetitia, pour ces apprentissages et vos lumières sur le futur du travail, notamment sur les aspects de la quête de sens, des métiers de demain et de la place des femmes dans le futur du travail. C'était hyper enrichissant.
Merci beaucoup à toutes les deux de m'avoir invitée. Je suis ravie d'avoir participé à ce podcast.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, le meilleur moyen de nous soutenir est de laisser un avis sympa et de noter ce podcast en lui mettant 5 étoiles.
Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et LinkedIn et vous abonner à la newsletter. À bientôt pour de nouvelles explorations écoféministes.